La revue de presse, c'est avec Virginie Pironneau. Bonjour Virginie.
Bonjour Pierre.
Ce matin, on commence par la pollution de l'eau qui pèse sur la croissance.
Pour la toute première fois, un lien est établi entre pollution et activité économique. Résultat d'un rapport de la Banque mondiale rendu public ce matin à la une du Figaro. Parfois, la mauvaise qualité de l'eau douce crève les yeux. Vous vous rappelez peut-être de ce lac littéralement en feu en Inde. Mais dans la plupart des cas, elle reste invisible et passe largement inaperçu. Or, la carte réalisée par les experts de la Banque mondiale nous réserve bien des surprises. Trois critères de pollution ont été retenus, les nitrates, l'écoulement des eaux usées et l'irrigation intensive. Et en rouge, figurez-vous, à l'encontre des idées reçues, on trouve l'Europe, au même titre que la Chine ou le Moyen-Orient. L'explication est simple, qui dit pays riche dit agriculture intensive et donc excès de nitrates. Au point qu'en Europe, seuls trois pays, la Norvège, l'Islande et Malte, ne dépassent pas les normes. Alors, parmi les conséquences, on connaît les algues vertes sur le littoral breton, moins connu l'impact sur la croissance des enfants. C'est étonnant, voire cynique, les experts ont fait le calcul suivant. Écoutez bien, je cite, « Chaque kilo d'engrais azoté supplémentaire par hectare, les nitrates, peut entraîner jusqu'à 19% de niveau de retard de croissance chez les enfants et réduire de 2% leurs revenus à l'âge adulte. » Car oui, la grande nouveauté de ce rapport, c'est bel et bien d'avoir quantifié le lien entre pollution et croissance économique avec l'équation suivante, quand une eau est appauvrie en oxygène, la progression du PIB de la région en aval peut baisser jusqu'à un tiers. Étonnant calcul qui, on l'espère, devrait contribuer à faire bouger les lignes.
Éviter la pollution de l'eau, Virginie, c'est justement le combat de manifestants en Turquie.
Ça se passe le long du détroit des Dardanelles, à l'ouest de l'Anatolie. La société civile se mobilise contre un projet de mine d'or porté par une compagnie canadienne. Quand elle est arrivée d'Istanbul, écrit Delphine Minoui dans le Figaro, Pinar Bili avait des rêves de nature pour son enfant, qu'il grandisse loin de la pollution des grandes villes. Raté ou peut-être pas tout à fait. Depuis le 26 juillet, ils sont plusieurs dizaines à camper sur les lieux, jour et nuit. Le 5 août dernier, une manifestation a rassemblé plusieurs milliers de personnes et une pétition qui circule sur Internet a recueilli 500 000 signatures, poussant le nouveau maire d'Istanbul, issu de l'opposition, à s'emparer de la question. Les défenseurs de l'environnement accusent par exemple les bulldozers d'avoir arraché 4 fois plus d'arbres que prévu dans cette région considérée comme un poumon vert du pays, connu pour ses oiseaux, ses antilopes et ses cerfs. Le cyanure ensuite, utilisé pour extraire l'or de la mine, risque de polluer les sols et les cours d'eau, il pourrait contaminer le barrage local qui fournit de l'eau à plus de 180 000 personnes.
L'eau toujours, Virginie, et les barrages en particulier qui font justement polémique en France.
Dans le pays, la sécheresse alimente les débats sur les retenues, c'est-à-dire dans la Croix ce matin, alors que les conflits autour de projets de barrages se multiplient dans le pays. Le plus symbolique à Sivens, qui s'était soldé par la mort du jeune militant Rémi Fraisse, mais il y a aussi Charlas en Haute-Garonne, Fourogue dans le Tarn, Caussade dans le Lot-et-Garonne et plus récemment, conflit dans le bassin de la Sèvre Niortaise et le Marais Poitevin, où une trentaine d'associations réunies sous l'étiquette Bassines non merci s'opposent au projet de 16 bassines de substitution. Prévues pour stocker l'eau hivernale et permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs cultures l'été, elles poussent à la consommation et sont une menace pour l'environnement, selon le collectif. Pour France Nature Environnement, c'est la multiplicité des projets qui pose problème. Il y aurait aujourd'hui tellement de retenues en France qu'il serait impossible d'en connaître le chiffre précis.
Dans tous vos journaux également, ce matin, l'inquiétant profil d'un chirurgien accusé de pédophilie.
Le chirurgien et ses glaçants carnets, titre Libération. C'est une révélation hier du quotidien La Charente Libre. Un chirurgien de Jonzac, en Charente-Maritime, est en détention provisoire depuis mai 2017 pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs. Au domicile du spécialiste, qui a longtemps exercé en Bretagne, les gendarmes ont découvert des carnets tenus depuis les années 90. Carnets contenant plus de 200 noms associés à des abus sexuels détaillés, parfois dessinés. Les enquêteurs ont remonté le fil et interrogé une jeune femme, aujourd'hui trentenaire, qui réside près de Lorient et dont les propos sont rapportés ce matin par la Charente Libre. En décembre dernier, elle est contactée par la gendarmerie. « Avez-vous été opérée en 99 de l'appendicite, hôpital du Sacré-Cœur à Vannes ?» Réponse affirmative, elle avait 12 ans et ne se souvient de rien. Les militaires lui font la lecture d'un carnet. Et là, dit-elle, c'est la descente aux enfers. Ma mère l'a lu avec moi. Je n'ai jamais pu lui en reparler ni mettre des mots. Un procès aura bientôt lieu pour viol et agression sexuelle sur 4 victimes présumées, mais il pourrait y en avoir des dizaines. Pour l'avocat du chirurgien, l'existence de ces carnets ne constitue pas des aveux circonstanciés. Mais si toutes ces pages noircies sont le récit de 30 ans de pédophilie et non de fantasmes, écrit Ouest France, ce serait l'un des plus gros scandales pédophiles en France.
Autre scandale sexuel, ceux dénoncés par le mouvement MeToo aux États-Unis, mais qui ne poussent pas pour autant les autorités à tendre la la main aux migrantes.
Saisissante histoire à la une du New York Times ce matin, celle de Lubia Pérez, guatémaltèque de 20 ans, qui rêve d'un départ vers les États-Unis. Elle a 16 ans quand elle fait la rencontre de son petit ami. Très vite enceinte, il la bat, l'empêche de sortir. Elle se réfugie chez ses parents. Un jour, il arrive et fracasse le crâne de la mère de la jeune femme. Pour cette mort, le jeune homme de 17 ans sera condamné à 4 ans de prison seulement. Il sortira au printemps et aura le droit de voir son enfant. Alors aujourd'hui, Lubia et ses deux sœurs vivent dans la terreur. Terreur qui a poussé leur père à vendre la maison pour se payer un passeur. Aujourd'hui, à San Francisco, il réfléchit encore aux moyens de les faire venir. Un cas, écrit le New York Times, emblématique des violences faites aux femmes au Guatemala. Et pendant ce temps, les autorités américaines développent des trésors d'ingéniosité pour limiter au maximum d'accorder l'asile aux Sud-Américaines victimes de ces violences.
Et on termine, Virginie, avec cette revue de presse, avec ces révélations du canard enchaîné.
Les Français peuvent être espionnés sans contrôle par les services de renseignement. Des filouteries simples comme bonjour est connue de tous. En théorie, explique le canard, pour procéder à des interceptions ou espionner des ordinateurs, les services de renseignement, DGSE, DGSI, TRACFIN ou encore la direction du renseignement militaire, doivent faire valider leur demande par une commission. Or, si cela n'aboutit pas, il suffit d'aller voir ses amis étrangers. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, vous savez, le tiers service, à charge ensuite de renvoyer l'ascenseur. Sauf que cette fois, c'en est trop. Le gendarme des grandes oreilles s'alerte de ces infos privées de garantie légale et demande une révision de la loi. La France, écrit le canard, est un des rares pays européens à laisser encore ses barbouzes barbouser de la sorte. Sans aucun doute, Pierre, une autre exception française.
La revue de presse, c'était Virginie Pironon.